Donc moi, mon sujet, c'est vraiment la notion de militarisation, c'est-à-dire un processus historique qui est en cours aujourd'hui, hein, en 2022. On est toujours dans un processus de militarisation du maintien de l'ordre et de la police. Alors, je vais repartir de faits très récents, extrêmement brutaux, et qui n'ont pas provoqué, à mon avis, l'émoi ni la réaction politique suffisante. Début juin 2022, une passagère à Paris reçoit une balle en pleine tête par un policier à vélo au cœur de Paris un samedi matin. Les syndicats policiers soutiennent, il se passe pas grand-chose. Quelques semaines plus tôt, c'est pas une, mais deux personnes qui sont abattues au cœur de Paris le soir de l'élection d'Emmanuel Macron sur le Pont Neuf. On est en face de la préfecture de police de Paris. C'est un refus d'obtempérer. Hein, la voiture aurait démarré quand les policiers se sont approchés. C'est prouvé maintenant qu'il n'y a absolument aucun danger pour les policiers. Là, on a un agent qui sort un fusil d'assaut, hein, une arme de guerre, un fusil qu'on appelle HKG-36, je vais vous montrer ça tout à l'heure, et qui mitraille le véhicule, donc à l'arme de guerre, au cœur de Paris, deux morts. Quelques semaines plus tôt, c'était un père de famille à Sevran, refus d'obtempérer également, dans son véhicule de fonction, qui était déclaré volé, en fait c'était une querelle avec son employeur, une balle dans le dos. Voilà. Et ça, là je me suis un petit peu penché, mais apparemment il y a un sujet cet après-midi là-dessus, là il n'y a pas une semaine sans des tirs à balles réelles de la police, y compris un policier municipal qui a mis en joue par exemple un automobiliste qui était mal garé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? C'est ça la question cruciale. Et c'est ça la question de la militarisation. On voit qu'en fait, y compris dans l'équipement, y compris dans l'attitude, y compris dans l'éthos du policier, on a une évolution. Là, aujourd'hui, on a des soldats. On a quelque chose d'autre. Donc, vous voyez, en mai 68, on a des policiers qui avaient bricolé un petit grillage devant leurs yeux, qui étaient en petite tenue. Leur équipement, c'était le bidule. Vous savez, le bidule, c'est l'ancêtre du tonfa. C'était une matraque en bois. Et voilà, et ils faisaient face à des gens barricadés, etc. Donc, cette image-là, c'est juste pour vous dire que tout le discours qu'on entend matin, midi et soir sur les policiers qui seraient sous-équipés, exposés à des nouvelles menaces, etc., c'est totalement mensonger, c'est totalement faux. Il n'y a jamais eu aussi peu de policiers, par exemple, qui perdent la vie en exercice. Hein, dans les années 60, c'était 4 fois plus. Voilà. Je commence pour casser là-dessus. Là, c'est environ 4 par an, en comptant les accidents de la route, etc. Donc, comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à cette situation où aujourd'hui, même la police des polices s'inquiète que les agents tirent 50 fois plus qu'il y a encore 2 ou 3 ans? Comment il se fait qu'il y ait 4 morts en 4 semaines à Paris, dans une indifférence totale? Eh bien, ça, c'est parce qu'il y a un processus de militarisation de la police qui se joue. Et là, je vais recouper, donc je ne vais pas re-rentrer dans les détails, mais qui s'est joué très très rapidement. En fait, en 25 ans, ça s'est installé en France et ça s'est installé comme une nouvelle normalité, ce qui aurait jamais dû l'être. Donc le premier moment charnière, effectivement, ça a été dit rapidement, c'est 94-95. 94-95, ce qui se passe, c'est que il y a évidemment la généralisation des bacs, mais au même moment, il y a la création du plan Vigipirate. Alors pour les personnes les moins jeunes, disons, de la salle, vous n'avez pas connu des soldats dans les gares et les aéroports tout le temps. Nous, on est nés avec ça, on a toujours connu ça. Voilà. Donc c'est une normalité pour nous. Donc 94-95, il y a le plan Vigipirate, on met l'armée dans les rues au nom de l'antiterrorisme et on présente ça comme un plan éphémère qui sera évidemment levé dès que la menace sera éloignée, etc. Vigipirate n'a non seulement jamais été levé, mais a été sans cesse rehaussé. C'est-à-dire on a créé des couleurs, Vigipirate rouge, orange, écarlate, hein, on a créé une nouvelle couleur. Et là, maintenant, c'est sentinelle. Hein, maintenant, il y a des brigades chargées de l'armée, chargées de patrouiller dans l'espace civil. Donc, il y a ce moment-là, de 94-95, c'est lorsque on distribue donc ce qui a été évoqué, le premier flashball. Alors, le premier flashball, c'est Claude Guéant, à ce moment-là, qui n'est pas une personne connue, c'est la première photo. Claude Guéant, il n'est pas collectionneur de tableaux, ministre de l'Intérieur, il est chef de la police nationale. Donc c'est un poste qu'on ne connaît pas forcément. Et il se dit, donc il y a un tournant de doctrine, effectivement, il se dit on va distribuer une nouvelle arme dite intermédiaire, qui sera le flashball super pro, qui va frapper directement un corps. Là, c'est un vrai tournant de doctrine, hein, tu n'as peut-être pas assez insisté là-dessus, mais effectivement, on ne repousse plus un corps collectif, on frappe un corps individuel. On ne tire plus, par exemple, une grenade en l'air, on habitue les policiers à presser sur la détente en direction d'un individu. Ça, c'est très important, ce changement de geste. Et on s'en rend pas compte du tout. Donc la munition de ce Flashball Super Pro, hein, je vais pas m'étendre là-dessus, c'est un gros pistolet avec deux gros canons qui tire une balle comme ça, en caoutchouc de 40 mm, une sorte de grosse balle rebondissante. C'est une arme à feu. Ça fonctionne comme une arme à feu. Et c'est important de revenir là-dessus, c'est une arme qui est ostentatoire. Effectivement, hein, quand Sarkozy dit « quand les policiers en ont, les voyous ne viennent pas les chercher », les flics s'amusent à sortir ça dans les quartiers, éventuellement à tirer. Quand ça tire, ça fait une détonation très importante, ça crache un peu d'étincelles, etc. C'est vraiment là une arme qui veut faire peur, une arme de terreur, et qui dit « rentrez chez vous ». Je passe rapidement, hein, parce que tu as dit certaines choses. On va franchir un nouveau palier en 2002. Non, en 2002, il y a la généralisation. Non, mais ça, c'est 2007. En 2002, il y a la généralisation donc du Flashball Super Pro qui était réservé aux banlieues d'abord. Ça aussi, tu t'es passé rapidement. Ce Flashball Super Pro, il est réservé aux banlieues. Il y a assez rapidement des blessés graves dans les quartiers. Et j'ai trouvé d'ailleurs un cas aussi dans une rave party, hein, des flics qui avaient attaqué en 99 une rave party à coups de Flashball. Mais globalement, c'est une arme qui reste confidentielle. 2002, ce que fait Nicolas Sarkozy quand il arrive au ministère de l'Intérieur, c'est effectivement qu'il généralise le Flashball et qu'il distribue également la grenade de désencerclement, qui est une grenade qui fonctionne comme une grenade militaire, hein, à fragmentation, sauf que c'est des plots en caoutchouc dur qui partent dans tous les sens, ainsi qu'une tête de grenade avec du métal comme ceci. Je passe rapidement. S'il y a des questions, de toute façon, on pourra en reparler après. 2007, là, on franchit un vrai palier, et là, tu peux, pour le coup, mettre la suivante. 2007, on franchit un vrai palier puisqu'on distribue Nicolas Sarkozy fait expérimenter le lanceur de balles 40 mm. Alors, on voit pas forcément super bien, mais là, on change complètement d'outil puisque ce n'est plus une arme qui se tient au poing, c'est une arme d'épaule, extrêmement précise, extrêmement puissante, dotée d'un viseur EOTech, d'un viseur qui est utilisé par l'armée, hein, notamment l'armée américaine, et qui est doté d'un canon rayé. Donc là, on passe sur une arme de catégorie A, c'est-à-dire une arme de guerre, littéralement. J'y viens. À partir de 2007, il y a une expérimentation qui est d'abord assez secrète de ce LBD, qui est donnée à des policiers volontaires sur le territoire français. C'est testé en banlieue parisienne, parce qu'il y a un soulèvement à Villiers-le-Bel en novembre 2007, et malheureusement à Nantes, puisque je me retrouve dans une manifestation lycéenne, et donc on a un policier cagoulé, ce qui était un peu inhabituel à l'époque, qui dégaine ce LBD 40, qui tire, et je reçois cette balle à côté de l'œil. C'est à partir de là qu'il va falloir démêler la pelote et mener une enquête indépendante et comprendre ce qui se passe. En fait, là, ce que je vous présente, c'est le fruit de ce travail-là. Donc, 2007, on commence à distribuer ce LBD qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus précis, et ce sera le Parti Socialiste, ce sera Manuel Valls qui va généraliser le LBD à la place du Flashball. Hein, ce sera la gauche. La gauche également, tu peux mettre la photo suivante. La gauche également, en 2016, au moment du mouvement contre la loi travail, va distribuer donc ce qu'on appelle un lanceur multicoup. C'est un lance-grenade de l'armée américaine, hein, on appelle le Pen Arms, de 40 mm, qui est adapté pour le maintien de l'ordre. Donc, vous voyez, là, on a une sorte de gros fusil à barillet qui peut tirer 6 munitions en quelques secondes. Donc là, on a encore un palier dans la militarisation. Je rentre pas trop dans les détails techniques, mais c'est pour vous montrer un petit peu la gradation très très rapide de l'armement. Et on arrive à l'état d'exception antiterroriste qui est toujours, voilà, qui s'est installé maintenant dans le droit commun et qui est même complété par l'état d'urgence sanitaire, avec la distribution de fusils d'assaut HK-G36 dont je vous parlais. Maintenant, toutes les voitures de police sont équipées de fusils d'assaut, c'est-à-dire des armes de guerre utilisées dans des conflits militaires. En parallèle, il y a toute une législation qui permet aux policiers de garder leur arme à feu 24 heures sur 24 chez eux, puis qui leur permet, depuis 2021, d'avoir leur arme de service dans l'espace public, en dehors du service, naturellement, le nombre de cas de tir explose, c'est-à-dire, à Nantes, on a un agent de la BAC qui a été incommodé par des bruits en bas de chez lui, qui est sorti, qui s'est bagarré et qui a tiré sur des gens. À Paris, pendant le confinement, un policier a tiré sur son voisin. Il a même fait un film Snapchat avec, etc., etc. En fait, des cas comme ça, les féminicides, hein, des policiers qui ont leur arme chez eux et qui soit tuent leur femme, soit tuent leur famille et se suicident. Enfin voilà, on a cette logique de militarisation. Je présente ça très rapidement. Et donc l'aboutissement, c'est 2021-2022, la crise sanitaire, et là, une militarisation de l'espace public dans son ensemble. Alors, je suis passé rapidement sur 25 ans parce que je voudrais aborder, très bien, je voudrais aborder la façon dont cette militarisation s'est installée. Et Yann B. a parlé du terme neutraliser. Tu disais que c'était un peu un euphémisme. Pour moi, c'est un terme qui est très important parce que neutraliser, c'est un mot qui vient du militarisme. Hein. On neutralise un objectif, on neutralise un ennemi, c'est-à-dire qu'on le tue, en fait, hein, dans une opération militaire. Hein, on entend l'armée israélienne dire on a neutralisé des belligérants, etc. Et ça, c'est pas anodin. Le policier qui m'a tiré dessus, lors du procès, il a dit j'ai neutralisé la cible. Hein, il parle d'un lycéen, d'une foule de lycéens qu'il avait en face de lui de 14, 15 ans, 16 ans. Il dit j'ai neutralisé la cible. Ça veut dire qu'il y a un travail aussi idéologique, il y a des représentations qui sont importantes. Si ces gens-là pressent sur la détente avec des armes aussi précises et puissantes, c'est parce qu'ils sont en guerre eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est très bien dit par les syndicats policiers, ils sont en guerre. C'est très bien dit par Emmanuel Macron quand il dit « nous sommes en guerre régulièrement ». C'est très bien dit par Éric Zemmour qui se présentait comme le candidat de la police et qui a dit « la police, c'est la première ligne de la guerre de civilisation ». Hein, il le dit littéralement comme ça. Donc il y a cette militarisation du langage. Hein, il faut bien comprendre qu'il y a une militarisation du langage avant d'avoir une militarisation des actes. Et le langage prépare toujours le passage à l'acte matériel. Donc il y a le mot neutraliser. On entend aussi les mortiers, vous savez, pour parler des feux d'artifice tirés en manifestation. Voilà, ce sont des mortiers. Donc un mortier, c'est un canon qui est utilisé en temps de guerre. Il y a aussi souvent une inversion. Le manifestant a tiré un projectile, mais le policier a utilisé une balle de défense. Voilà, il y a constamment cette inversion. On entend donc les mots belligérant, guérilla, enfin voilà, ça c'est l'eau quotidien dans les médias. Il y a vraiment une représentation militarisée. Donc, militarisation du langage, militarisation du régime politique en lui-même ces dernières années. Vous savez que pendant l'état d'urgence sanitaire, c'est un conseil de défense qui a dirigé la France. Hein. C'est pas des élus, aussi détestables soient-ils. C'est un conseil de défense composé de l'état-major de l'armée, de la police, des renseignements et du ministère de la Santé. Voilà, ça a été un aéropage militaro-policier qui a pris des décisions sur notre vie quotidienne toutes les semaines pendant 2 ans. Militarisation du régime par des dispositifs comme le service national universel, hein, qui est un endoctrinement de la jeunesse. Militarisation du régime, alors là, on le voit évidemment depuis le conflit ukrainien, Macron vient de déclarer il faut rentrer en économie de guerre, on va investir 50 milliards dans l'armée, etc. Donc là, on est dans un moment un peu hybride, de montée en guerre du capitalisme en crise et donc de militarisation à l'extérieur et à l'intérieur. L'état-major de l'armée française disait qu'il fallait se préparer aux conflits de haute intensité, y compris sur le territoire français. Donc voilà un petit peu l'histoire de la militarisation, comment elle s'est installée. Il y a énormément d'autres choses à dire. Hein. Effectivement, l'appel à tirer sur les gilets jaunes, puis à tirer dans les quartiers, ça c'est des choses qu'on entend très régulièrement. Moi, j'aurais aimé, mais il n'y a pas le temps, mais peut-être qu'on pourra en parler des résistances, parce que faire des tableaux cliniques d'une situation, en fait, c'est pas suffisant. Moi, j'ai des pistes, et le livre que vous pourrez retrouver juste devant propose des pistes, parce que ça suffit pas. On les a, les constats, la déprime ambiante, en fait, mais en fait, il y a énormément de positions et d'angles pour faire tomber cet édifice. Et d'ailleurs, on vient de me dire juste avant la conférence, là, qu'une école de formation de la police nationale allait s'installer à Montpellier. Voilà, ça, c'est une super ZAD en perspective. Voilà, école de guerre pour former donc la direction de la police. Mais il y a plein d'autres choses. Moi, j'aurais aimé vous parler de l'Assemblée des blessés, de comment entre blessés on s'organise, du co-coaching, etc.
Ça sera possible cet après-midi.
Voilà, et de comment on s'en prend aux infrastructures. Voilà, merci.
Merci à toi, super.